Bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc je dois commencer par une confession. Donc Abdel m'a proposé de, donc via un mail, de préparer un petit message sur Noël. En plus, une demi-heure, moi dont les messages sont plutôt pendant une heure, je me suis dit intérieurement, oh, Noël, ça va, c'est facile. En une demi-heure, encore plus simple. C'est que l'Éternel, lui, il a vu ça quand j'ai pensé ça. Résultat, lundi, mardi, mercredi, j'avais des tas de pensées dans la tête. Mais impossible de les mettre en ordre, ça ne sortait pas. Mercredi soir, il a fallu que j'arrête. Et je prie. Et Seigneur, j'ai pris les choses trop à la légère. J'ai trop compté sur mes forces. C'était trop facile. On arrête. Jeudi matin, tout s'est déroulé sans aucun problème. Voilà. Donc c'est une petite leçon. Voilà, on peut compter sur sa connaissance, ses capacités et penser que c'est facile. Mais il faut bien réaliser que sans le Seigneur, même les choses qui nous paraissent faciles, on ne peut pas les faire. On a besoin de lui. Vraiment, en toutes choses. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de cette semaine. Voilà, ne soyons pas, et que moi-même je ne sois pas présomptueux. Voilà, rien n'est léger, rien n'est facile si le Seigneur n'accompagne pas ce que l'on fait. Donc, un message sur la nativité. Alors maintenant, il faut que je regarde bien. Message sur la nativité. Et vraiment, je me suis demandé comment aborder la question de la nativité. Et je me suis dit, il faut quand même que ça nous parle et que ça ait une application concrète pour nous aujourd'hui. Et donc, ce que je vais faire, en fait, c'est le parallèle, c'est très simple, en une demi-heure, entre la naissance de Jésus il y a près de 2000 ans, mais surtout la naissance de Jésus en nous. Donc c'est ce parallèle-là que je vais faire. On va commencer par la prière. Seigneur Jésus, comme je viens de le dire, et tu l'as dit toi-même, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et quand tu dis rien, c'est vraiment rien. Donc aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, à nous attendre à toi, à regarder ta main qui dispense tes grâces, à tes lèvres dont les paroles sont des paroles de grâce. Bénis ce qui va être partagé ce matin, que cela puisse toucher les cœurs, les encourager, les réconforter. Amen. Bon, d'abord, est-ce que quelqu'un sait d'où vient le mot Noël? Alors, ça vient du latin natalis. Natalis, donc, qui veut dire en latin relatif à la naissance, évidemment à la naissance de Jésus. Donc, quand on évoque Noël aujourd'hui, à quoi pense-t-on? Les réunions de famille, le Père Noël, les cadeaux, la fête, les chocolats. Et on oublie l'essentiel. Et ça, c'est bien l'esprit du monde qui veut gommer tout ce qui trait à Jésus. Noël, c'est Natalis, c'est ce qui concerne et est relatif à la naissance de Jésus. Et c'est une naissance miraculeuse qui a eu lieu donc il y a près de 2 millénaires. Et la question dont je me suis posée, en quoi est-ce que cela nous concerne ici et maintenant? Donc on va commencer par un récit bien connu dans l'évangile de Matthieu, des versets 1 à 12. Et je vais demander à l'un ou l'une d'entre vous de venir ici et de nous lire ces 12 premiers versets du chapitre 2 de Matthieu. Est-ce que quelqu'un veut bien se lancer? Donc venir ici pour que ça soit bien dans l'enregistrement. Est-ce que quelqu'un veut venir à côté ici? Allez.
J'ai pas la même traduction.
C'est pas grave. Vas-y.
Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin.
Merci Toby. Donc je vais prendre simplement quelques points de ce récit et établir un parallèle donc avec ce qui peut nous concerner. Le premier point, donc il y aura quatre points et une conclusion, donc je vais faire assez simple. Le premier point, nous avons vu son étoile ou son astre en Orient. Alors aujourd'hui on se pose bien des questions, est-ce que c'était une conjonction de planètes, une supernova? Est-ce que c'était une comète ou un signe miraculeux? Est-ce que c'était un ange qui a guidé, donc un messager de Dieu, qui a guidé les mages vers la crèche? En tout cas, ça répond à une prophétie antique. Donc, il y a eu une citation de Michée quant au lieu de naissance Bethléem. Mais il y a également dans Nombre 24, verset 17, ce verset qui dit « Une étoile surgira de Jacob et un sceptre s'élèvera d'Israël ». Donc, par le jeu de parallélisme, donc l'étoile est comparée au sceptre, et donc ça annonce la venue du chef d'Israël, c'est-à-dire le Messie. Ça, c'est une remarque historique, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que Jésus lui-même est appelé dans la parole l'étoile. Dans l'Apocalypse 22, verset 16, est-ce que quelqu'un veut bien lire d'une voix claire? Apocalypse 22, verset 16.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
Je suis l'étoile brillante du matin. Lorsque cette étoile apparaît dans nos vies, c'est le signe de l'appel de Dieu. Lorsque notre conscience s'éveille et que pour la première fois on devient conscient du plan du salut, de l'évangile, de la bonne nouvelle en Jésus. C'est le moment où l'appel a lieu, c'est le moment où on voit pour la première fois l'étoile. Et cette étoile n'est que le début de la vie chrétienne, parce que cette étoile nous invite à aller adorer celui qui est né, qui est mort et qui est ressuscité, c'est-à-dire Jésus lui-même. Donc ça c'est le premier point. Avons-nous entendu cet appel? Avons-nous vu cette étoile? Est-ce que notre regard suit ce messager qui va nous mener vers Jésus? Celui qui illumine notre cœur, c'est l'Esprit de Dieu, au départ de la vie chrétienne, donc à l'appel, et il nous montre cette étoile. Mais voilà, pour que cette étoile brille en nous et que Jésus puisse vivre en nous, il y a bien des écueils, il y a bien des problèmes. Et en fait, ce passage nous les montre. Par exemple, deuxième point, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Et les mages posent une question innocente. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au lieu du savoir, dans la capitale, Jérusalem. Ils vont aller voir le roi Hérode. Ils vont aller voir les scribes et les pharisiens, les maîtres du livre, en disant, mais où est né le roi des Juifs? Alors, il faut connaître le contexte. Hérode se faisait appeler le roi des Juifs. Il a pris le poste par usurpation. Il a été nommé par le Sénat romain suite aux troubles dans l'Empire en conséquence de l'assassinat de Jules César. Et il a dit « Mettez-moi à Jérusalem et je rétablirai la paix ». Et ça a été un roi des Juifs absolument féroce. Féroce, sanguinaire. Mais les mages, ils sont loin, ils viennent de l'Orient. Ils ne connaissent pas tout ça. Ils vont à la capitale, le lieu naturel. Et on pourrait dire de la même manière, nous voulons quelque part embellir notre palais, notre temple, pour recevoir Jésus. Et c'est le réflexe religieux de notre chair religieuse en nous, en entend l'évangile, en entend la bonne nouvelle de Jésus, et la première chose que fait notre chair païenne, elle se travestit en chair religieuse. Et on va essayer de bien faire, et on va être gentil avec tout le monde, et on va, voilà, on commence à se vêtir de vêtements pieux, on fait une jolie face de religieux, les mains jointes, ouais, comme les pharisiens qui priaient au coin des rues pour être bien vus des hommes. Voilà, on joue aux chrétiens. Cette phase, je le dis, c'est normal. Au départ, souvent, il y a ce réflexe d'essayer de se sauver soi-même. Et on se dit, mince, il y a un Dieu, je suis pécheur. Je vais d'abord essayer de m'améliorer, voilà, pour me donner une bonne conscience. Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus n'est pas né dans le palais d'Hérode. Il n'est pas né dans le grand temple à Jérusalem. Il est né dans une étable. Il est né là où il y avait les bœufs, les ânes, les poules, il y avait les cacas de tout ça, il y avait la paille, voilà, il vient dans un lieu humble, exactement comme il veut venir en nous, tel que nous sommes, et pas essayer de se travestir en religion en pensant que nous allons lui plaire. Donc là, il y a eu un hiatus dans la tête des mages, qui naturellement ont pensé, voilà, c'était l'attirance logique, mais trompeuse. C'est le roi des Juifs qui est né, il est forcément né à Jérusalem. Ben non, il ne vient pas dans un lieu élevé, il vient dans un lieu pauvre. Est-ce que quelqu'un veut lire pour nous 2 Corinthiens 8, verset 9 ? 2 Corinthiens 8, verset 9, pour illustrer ce que je viens de dire.
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis.
Voilà, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, et il n'est pas venu avec faste et gloire, mais comme un petit enfant dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place où aller ailleurs. C'est ce qui est dit dans Luc 2, versets 6 et 7. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie et il a fallu trouver le premier endroit puisque l'accouchement était imminent et ils ont juste trouvé une étable, vite faire une crèche avec un peu de paille et poser l'enfant. Vous voyez ? Donc Jésus naît dans une crèche. L'Esprit de Dieu n'était pas à Jérusalem, il n'était même pas dans le temple. Un peu comme le message que Jésus a à l'église de Laodicée, souvenez-vous. Je frappe à la porte, c'est-à-dire Jésus est dehors. Jésus n'était pas dans la belle église de Laodicée, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Jésus était en dehors et il frappait à la porte. Là, de la même manière, il n'était pas auprès du roi et auprès des grands chefs religieux, il était auprès des bergers dans une étable à Bethléem. Donc faisons attention à ça. À ce réflexe de propre justice ou à la tromperie des apparences. Jésus vient en nous tel que nous sommes. Je crois l'avoir dit peut-être dans des prédications différentes, mais souvent je commence mes prières comme ça. Seigneur, je viens tel que je suis. De toute façon, tu me vois tel que je suis. Non, c'est pas la peine de faire du cinéma devant Dieu. Tel que je suis. Je suis un pécheur devant toi. J'ai besoin de ta grâce. Troisième point, les principaux sacrificateurs et scribes du peuple dirent à Hérode, il est ainsi écrit par le prophète. Alors là, ils sont capables de citer l'écriture sans aucun problème. Mais c'est bien le problème. Ils savent où le Messie est censé être né, à Bethléem, mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Ils savent, mais ne font pas. Ils savent, mais ne vivent pas. C'est ainsi que la parole dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup voient l'étoile, mais peu la suivent pour aller vers là où l'enfant est né. pour aller à la rencontre de Jésus. C'est toute la différence, j'en ai souvent parlé, donc je ne vais pas le redévelopper aujourd'hui, entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. On peut savoir beaucoup de choses, se farcir la tête d'encyclopédies bibliques, mais ça ne nous rapproche pas d'un pouce de la vie de Dieu. Ce qui nous rapproche de la vie de Dieu, c'est le développement d'une relation intime et personnelle avec Jésus. Il n'y a que ça qui compte. Souvenez-vous, Matthieu 7, « Je ne vous connais pas. » Mais nous avons prêché, mais nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons. Et Jésus dit, mais vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Donc vous voyez, la seule chose qui importe, c'est de connaître et d'être connu. Et comme le disait Jésus aux religieux, vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, elles parlent de moi, et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Jean 5. Alors comment ça se fait qu'on peut louper le coche, avoir vu l'étoile, mais rester là où on est, et plutôt que de suivre et marcher l'étoile pour aller à la rencontre de Jésus, on reste assis et on se remplit la tête de plein de connaissances, mais on ne bouge pas, on n'agit pas. Mais c'est parce que lorsque l'étoile, elle apparaît dans notre vie, elle va provoquer un chamboulement majeur, elle va mettre une guerre entre notre chair et notre esprit. Et cette guerre entre la chair et l'esprit n'a que deux issues possibles. Soit j'éteins l'esprit, soit je crucifie la chair. C'est l'un ou l'autre. C'est ce que dit Paul dans Galates 2, versets 19 et 20. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire ? Galates 2, versets 19 et 20.
Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Voilà, à un moment donné, ce n'est plus moi qui dois vivre, mais c'est lui qui doit vivre en moi. Donc il y a quelque chose qui doit se passer au niveau de la chair. Et ce n'est pas le fait que l'on prenne à bras le corps la chair, puisque nous en sommes incapables. C'est par notre préoccupation pour Jésus, avec Jésus, la relation avec Jésus, qui permet à l'esprit d'éteindre les traits de la chair. Donc on n'aborde pas la chair de manière directe, ça s'appellerait du légalisme, mais de manière indirecte par le développement de la communion avec Jésus. C'est lui qui a la puissance sur le péché, ce n'est pas nous. Nous ne l'avons pas en nous-mêmes. Et donc voilà, les sacrificateurs et les scribes savaient très bien où le Messie était né, mais ils ne bougeaient pas. Ils avaient la tête bien remplie de la connaissance de l'Écriture, mais ils ne vont pas à la rencontre de l'enfant. Et donc le critère pour celui qui a véritablement rencontré Jésus n'est plus de se préoccuper. Alors attendez bien ce que je vais dire, parce que ça peut être mal compris. La préoccupation première n'est plus tellement la question du péché. La préoccupation première, c'est celle de la communion avec Jésus. Et c'est cette dimension-là que l'on développe qui, du coup, va avoir une incidence ensuite sur la victoire sur le péché. Mais la préoccupation n'est pas le péché. Est-ce que, voilà, si on commence à se regarder et on commence à réactiver la chair, la loi, la puissance du péché est dans la loi. Quand on se préoccupe de nous-mêmes, on réactive la chair. Quand on se préoccupe de Jésus, on désarme la chair. Donc la priorité n'est plus nous-mêmes, notre sanctification, notre ceci, cela, mais c'est lui. Et Jésus s'occupe du reste. Donc c'est là la grande différence entre un chrétien et un légaliste, ou un religieux, même d'apparence chrétienne. Le religieux est très préoccupé de lui-même, le chrétien est préoccupé de Jésus. D'accord ? Ça, c'est le troisième point, donc. La crucifixion de notre chair avec le Messie et le Messie qui vit, qui naît et vit en nous, ce sont les deux faces de la même médaille. Et prenons vraiment cela au sérieux. Quand Paul dit aux Galates, Galates 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Messie soit formé en vous. Donc vous voyez, c'est pas évident que le Messie soit formé en nous. Il y a un travail au sens du travail de l'enfantement. C'est vraiment le terme. Moi, j'aurais presque envie de lire ça en disant « J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfant jusqu'à ce que le Messie naisse en vous. » Pour refaire le parallèle avec Noël. Vous voyez, c'est pas trivial comme ça. On a juste vu l'étoile. Non, il y a plus loin. Jésus veut habiter en nous. Et c'est un travail, une recherche du Seigneur. Et cette naissance et cette formation de Jésus en nous relève d'un vrai miracle. C'est l'œuvre de l'Esprit. Ce qui m'amène au dernier point, avant la conclusion, qui est justement le miracle de la naissance à la vie de l'Esprit. Considérons déjà pour Jésus lui-même, dont la naissance avait été annoncée dans Ésaïe, passage célèbre, verset, chapitre 7, verset 14. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte. » Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Immanuel, avec nous, Dieu. Dieu avec nous. Donc il est repris dans Matthieu 1, verset 23. Il y a véritablement ce désir de Dieu de vivre avec nous. Et il le fait en s'incarnant dans le Fils. Chair de notre chair, os de nos os, qui devient un avec nous dans son humanité. Et donc c'est un fait remarquable, Ésaïe écrivait ça 7 siècles avant la naissance de Jésus. Et on retrouve un écho de cela dans le récit même de la naissance de Jésus, dans Luc 1, versets 30 à 35, on ne va pas lire tous les versets, je vous lis juste la fin. L'ange Gabriel qui apparaît à Marie va dire à Marie, qui dit « Mais comment je vais enfanter, je n'ai pas connu d'homme ». Et l'ange lui répond, Gabriel, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus est né d'une femme, donc il partage bien notre humanité, mais il est conçu par l'Esprit. Il est divin. Et je crois que j'avais dit dans le dernier message, il y a un mois, c'est vraiment pour moi l'objet de la méditation en ce moment, cette double nature de Jésus, et pour le reprendre dans une formule que j'avais employée, qui est si radicalement différent de nous de par sa divinité, ce qui fait que quand on contemple sa gloire, quand on cherche, on voit un être éblouissant, un être radieux, un être qui nous dépasse complètement de par sa divinité, d'une pureté absolue, d'une sainteté absolue, d'une rectitude et d'une justice absolue, des vertus qui sont parfaites, qu'on ne peut pas améliorer, qui sont un être divin. Et si radicalement de nous, de par sa divinité, et pourtant si proche de nous, de par son humanité. Donc j'aime bien penser comme Jésus, il est un peu hybride. Il partage notre humanité et il va marcher littéralement avec nous, au milieu de nous, pour l'éternité, pour nous guider dans le culte du Père, mais à jamais, il restera radicalement différent de nous. Il est celui qui va porter l'ensemble de l'humanité dont il est la tête. C'est-à-dire que tout dépend de lui. Toute notre justice dépend de la sienne. Notre sainteté dépend de la sienne. Notre connaissance dépend de la sienne. On reçoit tout de lui, tout est dérivé de lui. Il a tout, nous n'avons rien. J'ai souvent employé cette formule. Il a tout, nous n'avons rien. Il est tout, nous ne sommes rien. Et c'est par lui que nous avons toutes choses. Et juste avant, l'ange Gabriel va dire à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Et un peu plus tard, dans le passage parallèle, dans... Lorsque Joseph va s'inquiéter, alors là, Marie, elle est enceinte, maintenant, je ne l'ai pas encore connue, donc il pensait à la répudier, etc., etc. Et là, pareil, un ange, peut-être le même, va lui dire, non, t'inquiète pas, cet enfant vient de Dieu, et également, tu l'appelleras Jésus. Donc, l'ange a dit à Marie, tu l'appelleras Jésus, et à Joseph, tu l'appelleras Jésus. Comme ça, il n'y a pas de dispute quant au choix du prénom de l'enfant, c'est réglé, les deux ont reçu la même consigne. Mais que veut dire Jésus? Yeshua ou Yehoshua? Que quelqu'un sait ce que ça veut dire? C'est un nom hébreu et qui a un sens bien précis. C'est Dieu sauve. Ça vient de la racine, effectivement, qui veut dire sauver. Donc Dieu sauve. Et c'est ainsi qu'il est appelé dans Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En conclusion, et c'est par là d'ailleurs que j'avais commencé la réflexion en début de semaine par rapport à ce dimanche, le premier verset qui m'était venu, c'est celui de Jean 1, verset 14. Donc là, c'est moi qui vais le lire, parce que je vais changer un mot dans une traduction pour le rendre plus explicite. Et la parole a été faite chair, et elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et vous avez entendu le mot tabernaclé. Ça rejoint le passage que dans le cantique dont tu as lu les paroles tout à l'heure, Raymond, un des strophes parlait du tabernacle. Il est venu établir sa tente. Parce que tabernaclé, ça veut dire dresser la tente. Vous vous rappelez la tente du tabernacle ? Que Moïse avait édifié dans le désert et qui est le lieu où Moïse rencontrait Dieu. Donc le tabernacle, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. Et là, il est dit, Jésus a tabernaclé parmi nous. C'est-à-dire, il a planté sa tente. Il a planté sa tente parmi nous. Et ça vous renvoie à un passage dans la deuxième épître de Pierre, alors non pas le chapitre 3, mais le premier, où effectivement Pierre parle du fait que nous habitons tant que nous demeurons dans cette tente. Il a la même expression pour dire ben, « tant que je suis dans cette enveloppe mortelle, je suis comme dans une tente ». C'est la même image. Donc Dieu dresse sa tente parmi nous en revêtant un corps et une âme humaine, en devenant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qu'il était. Et quel a été l'impact de sa venue parmi nous? Parce que je dis « ah ben Jésus est né, ah ben c'est bien, mais... » Où est-ce qu'elle est la paix de Dieu? Où est-ce qu'il est le royaume de Dieu? Il y a encore des guerres, il y a encore des soucis, des catastrophes, des scandales. Donc Jésus n'est pas venu simplement pour changer notre calendrier. Et beaucoup auraient voulu avoir, suite à la naissance de Jésus, un règne de paix sur la terre. Mais il n'est pas venu pour cela. Pas en tout cas une paix terrestre, une paix charnelle. Il n'est pas venu pour cela, au contraire, comme il est dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Mettre la division entre ceux qui croiront en moi et ceux qui ne croient pas en moi. Et pourquoi n'est-il pas venu instaurer la paix? Parce que pour instaurer la paix, il faut d'abord changer les cœurs. Et tout le monde n'accepte pas ce changement de cœur. Donc le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, comme le dit Jésus devant Pilate. Il est constitué de l'ensemble de ceux en qui Jésus vient tabernacler, en qui il peut établir son règne, sa présence par son esprit. Et c'est cela qui constitue le peuple de Dieu, qu'il va rassembler ensuite lorsqu'il revient à la résurrection finale. Et alors seulement, nous aurons de nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle la justice, la paix, la grâce, toutes les choses auxquelles nous aspirons vont régner. Donc ne nous trompons pas, il y a des combats qui sont de ce monde et qui n'ont rien à voir avec l'Église. L'Église, il y a des combats dont on n'a pas à se préoccuper, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 5, ça ce sont les gens du dehors et c'est Dieu qui les juge. Donc ne mêlons pas les buts, les quêtes qui sont du monde avec ce qui est l'enjeu de l'Église, qui est la présence de Jésus par son esprit. Donc ne confondons pas les choses. Et pour conclure avec ce tabernacle, il y a ce magnifique passage dans Apocalypse 7, au verset 15. « Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône tabernaclera avec eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Cela nous rappelle qu'il est des chrétiens qui entrent dans le royaume éternel avec des larmes sur les yeux. Donc Dieu ne nous épargne pas les larmes sur cette terre, mais il les essuie quand on entre dans sa présence. Et Apocalypse 21:3, la conclusion du livre de l'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il tabernaclera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc on voit dès le départ, dès le récit de la création, le désir qu'a Dieu d'habiter avec nous, de devenir un avec nous, de s'installer parmi nous, pour qu'on puisse voir sa gloire voilée par le corps de Jésus. La gloire de Dieu, on la voit en Jésus. Au vainqueur de l'église de Thyatire, Jésus dit la chose suivante: à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. Donc on a vu, et ça permet de boucler. Au départ, on voit l'étoile. J'ai comparé ça avec l'appel, la première fois où on entend parler de Jésus. Et on conclut par: et à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile. Ce qui veut dire quoi? Puisqu'on a vu que l'étoile, c'est Jésus lui-même, ça veut dire je me donnerai moi-même. Je me ferai connaître. Je me montrerai. Et ça, j'en ai parlé, je crois, la dernière fois. Je me montrerai. Celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me montrerai à lui. Donc, tout n'est pas fait au moment de l'appel. Jésus se montre. Jésus se donne. Jésus vient avec nous. Jésus vient en nous. Donc, voilà les quelques pensées que j'avais donc en relation avec Noël, de telle manière à ce que ça puisse imprimer également en nous que Noël, c'est pas simplement il y a 2000 ans à Bethléem, mais également c'est tout un travail d'enfantement pour qu'il soit en nous par son esprit.